Are you racing or watching?
La dispute. Musique. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Sophie-Catherine Gallet, Lucille Como, Boris Pinault et Joséphine Dumoulin. Prise de son assurée ce soir par Alexandre Dang, la réalisation par Lise Combe. Autour de moi, ce soir, Pascaline Podemain, Sophie Rosemont et Mathilde Serrel qui tapent dans son micro. Sur nos platines, Gallipoli de Beyrouth, Manga de Meira Andrade, Victoire Chose de Vima Laponce et Tsiriaka Arrivel, et puis le coup de cœur de Mathilde Serrel pour Dune de Canine. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Des invitations pour le film « On ment toujours à ceux qu'on aime » de Sandrine Dumas qui sort demain sur les écrans. Et on a appris hier la mort de Keith Flint, chanteur du groupe The Prodigy. Celui qui était d'abord danseur et entré comme tel dans le groupe s'est donné la mort. Il avait 49 ans, c'est quand il a commencé à prendre le micro en 96 que la carrière de Prodigy a vraiment décollé. L'énergie punk de Flint alliée à la musique électro de Liam Howlett, c'était le cocktail miraculeux de ce groupe. Le premier single qu'il avait chanté, c'était Firestarter. Le second, Breeze, on va en écouter un petit bout. Vous pouvez monter le son très fort. Voilà, après ce trop bref hommage à Keith Flint, mais qui nous aura tant fait bouger et ça continue, on ouvre le sommaire prévu de cette dispute. En commençant par Beyrouth qui sort son cinquième album que Zach Condon, le leader, a conçu en retrouvant son orgue Farfisa qu'il avait utilisé pour ses deux premiers albums. Il nous raconte tout ça évidemment. Enfin, la route a été longue, New York, Berlin, jusqu'à donc Gallipoli, qui est comme vous le savez, Mathilde Serren.
Dans les Pouilles.
Un petit port des Pouilles, en Italie. À l'arrivée, il y a 12 morceaux en 45 minutes, dont When I Die qui ouvre l'album. jusqu'au bout des morceaux. Toujours dans la dispute, c'est When I Die, c'est le morceau qui ouvre ce nouvel album de Beyrouth, et c'est Pascaline Potvin qui commence à nous parler de cet album.
Eh bien, écoutez, moi, vous avez effectivement très justement rappelé que c'est un album qui a été enregistré dans plein d'endroits différents. Donc, Zach Condon, aujourd'hui, vit à Berlin, je crois. Donc, il a travaillé là-bas, mais également à New York et aussi à Gallipoli, à Rome aussi, je crois. Et paradoxalement, même si on va pas se mentir, ça reste dans les canons des disques de Beyrouth où ça voyage, ça se nourrit comme ça de beaucoup de folklore. Moi, je trouve que paradoxalement, c'est peut-être son album le moins voyageur. En ce sens où ce qu'on connaissait de Beyrouth avec ses emprunts au folk d'Europe de l'Est, au cuivre, aux fanfares, aux accordéons aussi, c'est un peu délaissé pour plus aller du côté de l'indie rock. D'un certain indie rock qu'on connaît depuis le début des années 2000, qui a été popularisé donc bien sûr par Beyrouth, par Arcade Fire, même par Devendra Banhart, toutes ces choses qui sont faites de ukulélé, de clochettes, de petits instruments qu'on retrouve beaucoup dans les pubs pour les voitures hybrides. Et je ne souhaite pas, on n'est pas à l'abri qu'un titre de Gallipoli se retrouve dans une publicité comme ça. Je ne lui souhaite pas parce que je trouve qu'il mérite beaucoup mieux. Je trouve que c'est un très bel album. Alors effectivement, quand je parle de ces canons de l'indie rock moderne, je pense à ces mélodies très nobles, très chantournées, comme ça, qui se déroulent, qui sont très très bien mises en valeur par sa voix. Je pense à toutes ces petites intros à la guitare, à l'orgue Farfisa. C'est un album qui est très lumineux, très solaire, mais avec une lumière particulière, c'est une lumière qui se diffracte, qui se réfracte, qui est très très riche. Je pense à justement cette richesse de production, elle me fait penser aussi aux Beach Boys, notamment un titre qui s'appelle Landslide qui m'a beaucoup fait penser à ça. En fait,
c'est une comptine hein, aussi, c'est un peu
c'est un peu ça là, voilà, il y a ce côté un peu comptine très très lumineux. Je pense que voilà, il délaisse ce côté folklore pour aller plus vers l'indie, ça pourrait banaliser le disque, mais son expérience de songwriter avec ses mélodies magnifiques et son expérience de producteur, il fait beaucoup de choses dans ce disque, beaucoup d'instruments, mais tout est équilibré à la perfection et ça donne comme ça, j'ai l'impression de voir de la lumière qui se reflète sur un lac, le lac de Constance dont il parle dans une des chansons du disque, ou à travers comme ça les branches d'un saule pleureur. C'est peut-être le petit reproche que je ferais à ce disque, j'ai un peu l'impression d'être dans un Call Me By Your Name sonore en fait. Cette espèce de film qui se passait comme ça dans une villa italienne magnifique. Tout est presque trop beau
là
pour être
vrai. Là, vous avez le droit de dire une espèce de film, on est d'accord. Plutôt qu'un film.
Enfin bon, bah voilà. Non mais voilà. J'irais pas
c'est juste pour t'agréner, Mathilde.
J'irais pas jusque là non plus, mais c'est vrai qu'il y avait un petit côté un peu trop beau pour être vrai peut-être. Quoi. Un album comme ça, un peu plastique, ce qui le rattrape. Donc c'est sa beauté de production mélodique. Et aussi ce côté qu'on connaît chez Zach Condon, très mélancolique et un peu ce côté vanité. Comme si dans un tableau magnifique, très beau, très opulent, il y a cette tête de mort au milieu, cette mélancolie, ça lui donne de la profondeur.
Mais que d'images avec vous, Pascaline.
Mais voilà,
on a déjà le lac, les branches,
c'est un album,
le crâne.
Album qui fait naître des images. De là à dire que c'est un album instagrammable. Peut-être presque, on pense presque à ça en fait, mais je pense que ce serait lui faire un... Ce serait pas sympa de lui faire ça, parce que c'est un album qui vaut mieux que ça. C'est un très bel album, moi, que j'ai beaucoup écouté.
Bon.
Voilà.
Parce qu'il faudrait peut-être faire le ménage, mais là on appellerait Marie Kondo, notre idole, pour savoir ce qu'il faut enlever à ce disque. Mathilde Serrel.
Alors je me suis posé la question Marie Kondo avec ce disque.
Qu'est-ce qui est en trop ?
Est-ce qu'il continue à me procurer de la joie ou est-ce qu'il faut que je le rende ? Et si je le rends, je le remercie de m'avoir procuré de la joie par avant. Mais maintenant, il peut continuer sa vie tranquillement sans moi. Eh bien, je le garde. Je garde. Moi, je suis une grande fan de Zach Condon. On essayait de trouver quelle était sa parenté, sa fraternité de vocale. Moi, j'y pense parce que j'ai tendance à le voir partout, à Damon Albarn, le chanteur de Blur, notamment.
Il est derrière vous justement là.
Oui, ah, il arrive. je vous rappelle qu'il travaille en ce moment justement quelque chose à Paris, mais j'étais obsédée par la vie de Damon Albarn, donc j'arrête. Mais il se trouve que il y a ce que j'appelle ce chant de Prince Charmant qui ressemble à un des titres de la fin de l'album Park Life qui s'appelle Till the End, qui avait été un morceau travaillé avec Françoise Hardy aussi à l'époque. Moi, je retrouve en tout cas cette fraternité vocale. Il y aurait aussi peut-être, on parlait de Morrissey, des Smiths, avec cette façon de dire des horreurs, pour le coup des horreurs intérieures. Hein. C'est pas des horreurs à l'encontre, c'est pas un tableau satirique, mais c'est des horreurs d'une certaine manière de ses sentiments à lui, parce que c'est un disque en effet extrêmement sombre en dépit de sa lumière. Et qu'est-ce qu'il y aurait encore comme fraternité? Une fraternité un peu new wave égarée. C'est quelqu'un qui écoute énormément de choses, Zach Condon. Il est dans une sorte de travail d'alchimiste, en fait. Il malaxe tout ça, les fanfares balkaniques, en effet, mais il aime aussi l'expérimental. Il a écouté du Boards of Canada, il écoute principalement de la musique expérimentale. Donc, en effet, il y a cette construction malaxée, complètement impossible, entre de la new wave, du post jazz punk expérimental, de la fanfare balkanique, de la pop, de l'indie rock à clochette.
Non, mais ça donne des morceaux comme On Maino Island, qui est vraiment effectivement dérangé, une sorte d'électro un peu dansante, mais qui va grincer.
Et qui est, dans la dissonance.
Dissonant, enfin, ça, il travaille ça.
Qui est très, enfin, moi que j'ai trouvé d'ailleurs assez désagréable, parce que tout n'est pas réussi. Je trouve que j'ai pensé à une sorte de barbarisme pour le qualifier.
Attention.
Il est mariatriste. C'est-à-dire, c'est un mariachi triste. Il est mexicain d'origine, Zac Ondoen. Et en fait, il y a ces...
Enfin, il a grandi à Santa Fe, ce qui...
Oui, mais je veux dire, il a connu cette atmosphère mexicaine.
Mexicain d'origine,
oui,
ok.
Pardon.
Je traduis du CRL directement dans le texte.
Parce qu'il y a de la musique mexicaine, pardon, dans les influences. Il le dit souvent que ses mariachi et ses chansons traditionnelles de son enfance à Santa Fe, de Mexica, qu'il n'est pas américain, mais ayant grandi dans une sorte de Mexique américain.
D'accord, mariachi.
Vous me suivez.
Okay.
Il est mariachi triste, et donc mariachi triste, parce que je trouve qu'il emmène ce folklore des mariachi. En général, ils ont les guitares, vous savez, plus haut que l'épaule, et un grand sombrero. Ils viennent alimenter comme ça éventuellement une fiesta, c'est la caricature qu'on en a. Bah, lui, il les libère de la caricature et il en fait quelque chose de profondément sombre et triste, comme il a libéré d'ailleurs le folklore balkanique
libéré,
de sa caricature.
Délivré. Sophie Rosemont se demande depuis tout à l'heure quand est-ce qu'elle va pouvoir parler de ce disque de Beyrouth. C'est maintenant, Sophie.
Eh ben, j'y vais. Déjà, effectivement, les Beach Boys, c'est un groupe qui est très important pour Zac Ondoen depuis qu'il est tout petit.
Vous le connaissez bien toutes les trois ou quoi, ce Zac Ondoen?
Alors, pour le coup, je l'ai rencontré plusieurs fois.
Sophie Rosemont.
J'ai rencontré plusieurs fois un garçon très intéressant et assez... assez mélancolique, ce qui s'entend dans sa voix d'ailleurs. Il a une voix avant tout extrêmement mélancolique, ce qu'il est. Il y a des moments plus ou moins sombres dans sa vie. Là, ça va un petit peu mieux depuis qu'il est à Berlin. Mais c'est pas seulement un Américain qui prend l'air en Europe, qui s'amuse. C'est vraiment quelqu'un qui avait besoin de prendre des distances et qui n'a jamais été très très, c'est ça dont parle le disque aussi, très très attaché aux États-Unis, dans le sens où il a vécu, enfin il a grandi à Santa Fe, qui est une ville hybride entre les États-Unis et le Nouveau-Mexique, et qu'il a toujours vécu dans cette hybridité d'influence entre le crotrock et les Beach Boys, effectivement les trompettes mariachi. On est très trompettes ici à France Culture en ce moment à la dispute.
Alors ça, la dispute, c'est spécial trompette.
Revenir sur la trompette.
Ah ouais.
Et donc là, ça aussi, il y a aussi ce côté retour aux sources, étonnamment, c'est-à-dire une vraie prise de distance avec son pays natal, les États-Unis, et un retour aux sources avec le fameux Hank Farfisa qu'il avait découvert à peine majeur et qu'il a retrouvé récemment, et aussi tout simplement à ce ton qu'il avait au tout début dans ses tout premiers albums. Ici, voilà, on croise aussi bien le doux que effectivement les trompettes. Il y a aussi pas mal de bagarres entre l'orgue et la trompette d'ailleurs. On ne sait jamais vraiment qui gagne. Des bagarres entre le passé et le présent. Et sur les textes, c'est jamais ce qui a été le point fort finalement de Zac Ondoen, parce que ce qui l'intéresse plutôt, c'est les mélodies. Et il a raison. Il parle d'exil, d'éternel retour, un peu de solitude, un peu comme d'habitude au final. Et ça marche toujours bien. Et est-ce que finalement on a vraiment besoin de l'écouter, rien que d'entendre sa voix et ses mélodies qui sont toujours très très belles? Le titre qu'on vient d'entendre, Wanadai, est une vraiment très jolie ouverture, même si j'ai un bémol en revanche sur la fin de l'album, d'ailleurs qui s'appelle Fin, et dont on aurait pu se passer. Je pense que voilà, c'était assez dispensable.
Corfou est assez raté.
Corfou est dispensable peut-être aussi.
Les instrumentaux, je les trouve beaux, moi, Corfou et On Maino Island.
Mais de toute façon, il adore lui les instrumentaux parce qu'il n'est pas obligé de chanter, ça l'arrange. Ouais. Et donc c'est vraiment quelqu'un d'assez... d'assez attachant, comme je disais, le passé, le présent, mais aussi quelqu'un qui est dans l'air du temps et à la fois qui propose une musique que personne... pour l'instant, n'est capable de faire à part lui. Et ça fait quand même plus de 10 ans. Et je trouve ça vraiment épatant. À son âge, il a 33 ans. C'est quand même quelqu'un qui a été extrêmement précoce. Et évidemment, moi aussi, je suis comme Mathis Serrel, je garde dans ma petite méthode Marie Kondo, je le plie dans ma commode avec amour, en le remerciant tous les jours.
De rester avec nous. Gause Furzar, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette chanson? Elle est assez magnifique dans le genre Beach Boys.
Moi, c'est marrant parce que c'est pas du tout, c'est pas celle que je retiens le plus. Je la trouve un peu criarde parfois. C'est pas vraiment, pour moi, c'est un des moments un peu moins bons. Alors qu'au contraire, les instrumentaux dont vous avez parlé, On Maino Island, comme ça, qui est un peu contemplatif, et Corfou, qui est en fait, et inquiétant, et Corfou, qui est en gros de l'exotique. En fait, moi, enfin, si je peux entendre ça dans tous les bars de plage où ça m'arrive d'aller en vacances, je préfère ça
que de la techno, que de l'eurodance moisie.
Mais justement, comme vous parliez à raison de sa mélancolie, de ce sentiment, etc., il y a quand même beaucoup de joie à l'écoute de cet album Gallipoli. C'est quand même extrêmement, c'est une joyeuse fanfare. Et même le Family Curse, dont le titre... Donc,
Family Curse, qui est une vraie réussite.
Ça devrait être un tube dans un monde idéal.
Et qui témoigne de la facilité.
Malédiction familiale, donc, je traduis directement de l'anglais. Non, mais c'est quand même un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même un décalage entre le propos, même s'il est assez sibyllin, et la musique, qui est quand même quelque chose qui est extrêmement vital, extrêmement joyeux, donc des arbres, des lacs, du soleil.
La Méditerranée. Le soleil.
On peut très bien écouter ce disque sans ressentir... La voix, elle est charmeuse.
Mais ça sera toujours en clair-obscur, parce que Gallipoli, c'est aussi une ville où il y a eu une grosse bataille, où il y a eu beaucoup de morts. Et à la fois, c'est une ville où il s'est retrouvé un soir avec son groupe. Il s'est baladé dans la rue. Il y avait une fanfare religieuse. Et il a été transporté par ça. Il est rentré. Il a écrit le morceau du même nom en quelques heures.
C'est un très
beau
morceau.
C'est quelqu'un qui conjure, de toute façon, ses chagrins et ses peines. Et plus il est triste, plus c'est joyeux. Le dernier album, No, était pour moi un des plus relevés de Beyrouth, alors qu'il était vraiment au fond, non, mais il était vraiment au fond du gouffre et l'album était très, comment dire, très, très relevé, très entraînant, ce qui est un peu moins le cas ici parce qu'on revient vraiment sur les types de tonalités de The Riptide, notamment. Mais oui, c'est un album vraiment très réussi et Zach Condon devrait être reconnu beaucoup plus qu'il ne l'est.
Bien, et bien écoutez, Zach Condon et son groupe Beyrouth, c'est Gallipoli, le nouvel album chez 4AD. Des concerts à venir. Le 2 avril à Bruxelles, le 5 avril au Grand Rex à Paris, le 28 juin vous y serez visiblement.
On y va.
Oh, d'accord, je peux venir ou non? D'accord. Le 28 juin à Esch-sur-Alzette au Luxembourg, vous n'y serez pas? Non. Et le 30 juin à Marmande, ce sera le festival Garo Rock, évidemment. À suivre dans la dispute Mérandrade, Vimalaponce et Tyriac, comment il faut prononcer maintenant?
Tyriac,
ça fait des mois, des années que je parle de Tyriaca Arrivel et maintenant vous me dites qu'il faut dire Tyriac Arrivel.
On m'a affirmé qu'il fallait dire Tyriac Arrivel.
L'aurais-je su avant? Bon, on parlera d'eux et on parlera aussi de Canine.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
Suite de cette dispute consacrée à la musique avec l'album Manga, cinquième également pour Mera Andrade, malgré son titre. Ne vous attendez pas des sonorités nippones, hein, le manga c'est le fruit, c'est la mangue. Des sonorités plutôt africaines, puisque la capverdienne Mera Andrade s'est installée à Lisbonne, où elle s'est immergée, raconte-t-elle, dans l'afrobeat et autres musiques urbaines africaines. Elle chante essentiellement sur cet album en créole capverdien, pas seulement. Et ce disque a été enregistré entre Abidjan et Paris, on va en parler après avoir écouté Codé.
Hoje em creia na pena John, hoje em ti brisa na bumente, grande sol dentro em amor, pode amar sempre por frente. Deixam saber mo que busta, a minha lele se mal deixam, e sempre sabe estar junto com o bom irmão, e sempre em alto em eu dentro em coração. Hoje um par, tá longe pro par, descobri vida longe de tudo nós. Cuida sempre de bom poder, crepo ser feliz. Hoje o par, tá longe pro par, descobri
passa só de boa. Sem mãe a vida é só de meu. E nas bajo com solidão. Praça estrela de boa intuição. Pinta na tela de bom mundo. Aquela aquarela de emoção. Hoje o papa longe pro par. Descobri vida longe de todo nós.
Nous voilà de retour après avoir écouté Codé de Mera Andrade. Madine Serrel, vous savez que c'est à vous.
Exactement, je le sais et j'ai envie de vous répondre en portugais. Malheureusement, je ne suis pas lusophone et je le regrette. Mera Andrade, bah, moi je suis...
Mais par contre, vous maîtrisez le créole capverdien, je crois.
Exactement. Mais Mera Andrade, en fait, elle avait été découverte il y a longtemps sur Nova en français. Elle avait fait ce titre magnifique qui s'appelait « Comme s'il en pleuvait ». Elle avait suivi des ateliers d'écriture à l'époque pour justement... voilà. Trouver son orfèvrerie mélodique et son orfèvrerie textuelle. Et la voilà donc libérée, comme elle le dit elle-même, depuis qu'elle s'est installée à Lisbonne. Et elle a finalement...
On n'a que des exilés libérés aujourd'hui.
Ah oui, mais là, vraiment, délivrée, libérée, Mera Andrade. Voilà. C'est-à-dire qu'elle est sortie de ce côté un peu bonbon, sucré, capverien, avec des jolies mélodies. Elle a une voix absolument sublime. De toute façon, c'est un petit peu comme Zac Anton. C'est donc où il y a une lumière qui arrive à travers les enceintes ou à travers l'iPhone ou quel que soit le
à travers les branches des arbres.
Ou les branches des arbres qui se reflètent sur le lac, mais c'est exactement la sensation qu'on a avec la voix de Mera Andrade, sauf que là, elle est affranchie, elle est dans une maturation, c'est une mangue mûre, j'ai envie de vous dire, mais au sens très positif du terme. Oui.
Poésie symboliste, poésie sensuelle.
Poésie sensuelle.
Baudelairienne, bourrée un soir. Hein. Non. On est dans Chabonnaire un peu bourré. La mangue mûre, c'est du Baudelaire un peu ivre.
Oui, peut-être. C'est vrai que c'est la charogne, éventuellement. Mais non. Non, je dis ça parce que... Elle est non mais c'est vrai qu'elle est resplendissante dans cette espèce de nouveau chant très assumé accompagné de mélodies dont on a beaucoup parlé d'Afrobeat sur ce disque mais moi j'entends de la rumba
on le cherche quand même non
l'Afrobeat. On le cherche voilà on en a parlé moi j'entends beaucoup plus de la rumba zaïroise j'entends en effet cette espèce d'Afrique parfois vue aussi par le filtre de la pop l'Afrique telle qu'elle peut se jouer dans des clubs et avec des producteurs occidentaux et européens comme elle peut par exemple traverser la ville de Lisbonne qui est très active sur le plan des fêtes, du DJing, etc. Et donc elle est dans cette tambouille numérique qui est une sorte d'afro-futurisme, afro-politanisme filtré par Lisbonne. Ça s'entend et il y a aussi beaucoup plus, je trouve, de... quand je parle d'une mangue mûre, c'est que je trouve qu'elle est assumée dans son désir, elle est assumée dans sa sensualité beaucoup plus qu'avant. Où elle avait l'air d'être ce juste fruit délicat qui va orner comme
elle
ça.
Elle était un peu verte avant.
Voilà, les consoles et les platines de disques. Donc pour moi, c'est un bonheur de la retrouver aussi affranchie. Et Lisboète, on a envie de la faire... de lui faire rencontrer d'autres Lisboètes.
Vous nous donnerez les noms tout à l'heure après que vos camarades se soient exprimés. Sophie Rosemont et Hilar.
Qui est dans le rôle de Apollinaire un peu fâché.
Ouais.
Ah non, mais non, pas du tout. Je riais pour toutes ces choses autour de la mangue mûre et de la mangue verte. Je trouve ça très bien.
Sans parler de la papaye.
Oui, donc c'est vrai que c'est un bel album où il y a un peu, on entend vaguement l'afrobeat ici et là. On entend l'Afrique peut-être plus, en tout cas beaucoup plus, même d'ailleurs sur ses précédents albums. Ce qui est certain, c'est que c'est entre guillemets ce qu'on pourrait dire l'album de la maturité. Ah. Je dis ça avec des guillemets, mais il est vrai que là, c'est quelqu'un qui se trouve, qui l'affirme.
Voilà, en tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit. Effectivement, j'ai dépassé la trentaine. Je me suis rendu compte que j'ai des amis qui se reconvertissaient, qui faisaient des choses. Moi, je voulais rester dans la musique, mais il fallait que je me réinvente. Et tout en faisant quand même, ici aussi, d'ailleurs, on parlait d'exil, mais on parle aussi de retour aux sources, comme Prozac. Ce retour à quelque chose, même si elle a toujours eu ce côté sodade.
Comme pour Zach. Leader de Beyrouth.
Son petit nom désormais.
Comme pour Zach Condon, excusez-moi. N'est-ce pas? À quelque chose d'assez mélancolique. Et c'est une artiste qui a été très, très frappée par la rencontre avec Cesaria Evora quand elle était adolescente, qui lui a permis vraiment de s'affirmer en tant que chanteuse.
Et ça habite plus. C'est un sacré poids.
Et c'est une personnalité qui, étrangement, habite cet album qui est censé être à la pointe de ce que la pop synthétique africaine, ouest-africaine fait de mieux en ce moment, avec ses deux beatmakers, la 2B et Akatashé.
To be, si vous voulez.
To be for free or free to be, je ne sais pas. Et ce que je peux reprocher à ce disque, c'est peut-être les arrangements sont très beaux, mais la production est un peu trop façonné. D'après moi, j'aurais voulu peut-être quelque chose un peu plus rugueux parfois un peu plus accidenté. Évidemment, la voix est très belle et c'est toujours très beau et elle veut les plus belles choses autour d'elle, ce qui s'entend, mais parfois laisser un petit peu de lâcher prise, quelque chose d'un peu plus abrupt, parce que c'est une artiste qui a ça, on l'entend moins sur cet album. Donc quelque chose d'un peu plus sombre, un peu plus, voilà, ce qu'on retrouve chez Beyrouth. Donc oui, une mangue plus ambivalente mangue, qu'il n'y paraît.
La mangue de la maturité, hein, c'est vous qui l'avez dit. Adjectif mûr.
Là, c'est
Pascaline Potvin.
Non, mais figurez-vous que moi, là, je vais arrêter de faire des images, parce que déjà, vous en êtes très bien chargé avec vos histoires de mangue, de mangue mûre, et voilà. Moi, je trouve que je suis un petit peu déçue, parce qu'effectivement, on me parle d'un album influencé par l'afrobeat, un album qui renouvelle un peu les codes du genre, d'une personnalité qui se réinvente. Effectivement, moi, l'afrobeat, je le cherche. Effectivement, elle a travaillé donc avec deux beatmakers africains. Ça s'entend sur des petits beats électro, ça s'entend sur des nappes de synthé, ben, le titre qu'on a entendu, là, qui commence sur une très jolie, comme ça, nappe de synthé très ample. Ça s'entend sur le titre Pull Up où sa voix est passée à l'autotune. Elle dit, je crois, j'ai lu dans une interview, elle disait qu'elle avait même dû se battre pour imposer cette autotune. Enfin, on l'entend, il est quand même très très léger. Oui. On n'est pas chez Aya Nakamura.
On lui présentera PNL.
Voilà, et Aya Nakamura pour l'afrobeat. Oui. Donc voilà, c'est juste, je trouve que on reste quand même, ce qui reste quand même devant, c'est la voix, effectivement, très sensuelle. C'est les rythmiques qu'on dit chaloupées, pour parler avec des gros gros clichés, mais je trouve que ce disque en sort pas beaucoup. On reste dans un album de world traditionnel, effectivement très sensuel, avec cette voix magnifique, mais sensuelle et surtout consensuelle. Moi, je trouve que...
Consensuel et sans suite.
Ben voilà, sensuel, consensuel, sans suite. Sans suite, non, je dirais pas ça, parce que c'est vrai que c'est un bel album. Il y a des jolies mélodies, sa voix est magnifique et tout. Mais on reste dans un album de world music très classique, très sage, qui est davantage fait pour faire voyager les gens qui n'ont pas envie de faire du mal à leur empreinte carbone. Un album didactique, en fait, je fais découvrir la musique traditionnelle capverdienne aux gens qui ne la connaissent pas et un public occidental, plutôt qu'un album qui va chercher à partir d'une musique traditionnelle et en ouvrir les frontières. Donc voilà, c'est beau. Je vais pas, je dirais pas que c'est un album à jeter pour parler selon les critères Marie Kondo, mais je trouve que c'est un album encore très sage et très classique dans les canons de la world music.
Mais voyez, pour une fois, j'ai lu effectivement le communiqué de presse concernant la sortie de cet album, donc j'attendais effectivement l'afrobeat que je n'ai vraiment pas trouvé. Moi, je trouve que c'est un grand retour en arrière, en effet, au niveau de la production, parce que je trouve que c'est un album world music comme on en faisait il y a 20 ans, quoi, enfin, ou quelque chose comme ça, vraiment fait pour diffusion internationale. On va inonder le marché mondial, parce que là, on peut écouter ça sans douleur partout dans le monde.
Et vendre une boisson à
en sirotant des cocktails. Voilà, et je cherchais le nom de Donna Onette, parce qu'il n'a rien à voir, mais qui est cette... brésilienne qui avait sorti cet album, une vieille dame, et qui était très brute, qui était très très rugueux comme ça. Et là, on a gommé toutes les aspérités. On a un disque extrêmement lisse qui coûte quand même avec un vague ennui au bout d'un petit moment. J'ai l'impression de l'avoir entendu ça 10 000 fois. Et au milieu, il y a cette voix qui est sublime.
Ouais,
et donc, non.
Ouais, non, mais je le trouve très dur parce que
oui, bah, j'exagère un peu.
Oui, voilà. Il y a
pas tellement.
Il me semble, après pour avoir écouté l'album dans l'ordre des titres déroulés et pas en délinéarisé, moi il me semble qu'en fait il s'essouffle. C'est surtout que passer certains titres d'ouverture que je trouve quand même, moi je trouve que Affetto, Manga sont vraiment, il n'y a pas que la voix, ce sont aussi des mélodies, je trouve très malines, très entêtantes, et donc pour moi c'est pas anodin et c'est pas simplement une espèce de musique world ancienne au kilomètre, c'est pas vrai. Il y a aussi une réflexion sur, moi je crois pas que ce soit volontairement aseptisé, c'est juste une réflexion sur ce dosage. On en a aussi un petit peu abusé avec des groupes comme Vampire Weekend, etc., de l'utilisation et du filtrage de la musique africaine. D'une certaine manière, je trouve que
on
c'est...
On en est loin.
Il y avait le côté Soweto.
Soweto, oui.
Sous l'influence de Paul Simon, qui marchait bien chez Vampire Weekend. Mais là, c'est vrai que... Après, c'est d'autres régions et d'autres influences. Mais là, ce qui est intéressant, c'est le côté textuel autour de la diaspora capverdienne. Ça, c'est très intéressant. Maintenant, tout le monde ne comprend pas forcément les paroles. Donc, il faut se procurer la traduction. Et ça, c'est peut-être un manque.
Ouais. Et puis, ça joue, à mon avis, sur certains curseurs, justement, dans ce grand filtrage de la musique africaine par la pop occidentale. Et donc, elle propose une forme d'équation qui n'est pas, à mon avis, qu'une vieille équation. En revanche, les 3-4 derniers titres, je crois vraiment, oui, vous pouvez laisser.
Oui, en plus, le disque est vraiment beaucoup trop long. Pascaline Potvin.
Mais non, mais justement, moi aussi, je l'ai trouvé trop long, mais il dure 44 minutes, il n'est pas si long que ça. Donc, c'est vraiment qu'en fait, on s'ennuie un petit peu.
C'est plus subjectif que la durée.
Mais je revenais sur cette idée de réinventer la musique africaine. Loin de moi, je ne suis pas une spécialiste de musique africaine, mais j'entends des choses aujourd'hui qui la renouvellent davantage, en fait. Je pense à Kokoroko, ce groupe d'afro-jazz qui est mené par 3 londoniennes qui font des cuivres, qui est formidable. Je pense à BCUC en Afrique du Sud, Pongo.
J'allais le dire, voilà. Pongo à Lisbonne.
Voilà, Pongo à Lisbonne.
Pour le coup, c'est avec elle qu'elle devrait travailler.
Voilà, qui réinvente la samba angolaise.
Temboulaya, c'est vraiment un hymne.
Il y a des choses, et puis même si on sort de l'Afrique, je vois ce que Rosalia fait avec le flamenco. En fait, je me dis, il y a peut-être de nouvelles façons de parler de musique du monde à une époque aujourd'hui où le monde il est dans notre salon sur un écran, quoi. Donc je sais pas, je trouve effectivement que cette vision de la world music telle qu'elle est présentée dans Manga est un peu datée.
Il y a même déjà un problème avec le terme world music, non? Je crois que maintenant,
on peut plus entendre le terme world music.
C'était
bien en 75, quoi.
On dissout l'étiquette, peut-être, là, globalement.
Mais quand on écoute ce disque, on repense à cette vieille étiquette à ces vieux bacs.
On repense à
des
vieux disques. On repense à un rayonnage,
soudainement. On repense à musique métissée, quoi. Et ça, je ne peux plus l'entendre, quoi.
Bon, faites-vous votre avis par vous-même en écoutant ce disque Manga de Meira Andrade chez Columbia. Et puis, vous pourrez l'avoir en concert le 9 mars à Oberhausbergen, le 28 mars à Lille, le 6 avril au Festival Chorus, ce sera la scène musicale à Paris, 19 avril à Fontenay-sous-Bois, 20 avril à Bourges et 22 juin à Moissac. C'est le moment du coup de cœur de Mathilde Seren qui bat pour un premier album. L'album s'appelle Dune, elle va nous le dire. Le groupe s'appelle Canine, ça sort chez Polydor, on en écoute un extrait. So often powerless, but I know you make me helpless and I glow. I glow like blocks and beams and I see. Paralyze my dreams, disagree. I glow like blocks and beams, and I see. I'm paralyzed, my dreams, disagree. Vous voulez continuer à chanter, Mathilde Seren?
J'adorerais.
Alors, Canine, qui, que, quoi, dont, où?
Kike Kwadwo, c'est une ancienne comédienne, metteuse en scène, qui va peut-être continuer à le faire plus tard. En tout cas, c'est une sorte de petit spectacle qu'elle nous propose, ce disque canine, avec un personnage totalement inventé. Le symbole, c'est une dent canine, donc qui est à la fois la dent qui va déchirer, et en même temps, c'est une canine fissurée. Et c'est un petit peu l'image du personnage qu'elle a créé, un personnage...
Elle a un nom ?
Elle s'appelle Magali Kota, et donc Dune, c'est ce premier album, et Canine, c'est ce personnage.
D'accord.
C'est un personnage qui, au fond, est travaillé par des mythologies du début du 21e siècle, c'est-à-dire Anoni, donc ex-Anthony and the Johnson, et cette voix extrêmement post-genre qu'on avait déjà, moi que j'avais énormément aimé, extrêmement fragile. Il y a aussi cet aspect très épique de la musique électronique de Woodkid. Mm-hmm. D'ailleurs, elle va tellement loin dans la signalétique par rapport à Woodkid qu'elle est parfois comme ça vêtue d'un grand masque de plumes qui rappelle les clips à l'époque de Woodkid. Donc il y a ce côté guerrier, épique, électronique, voix post-genre. Elle est extrêmement littéraire, extrêmement travaillée. Et finalement, c'est quelqu'un qui faisait des bandes son pour ses spectacles. C'est drôle, parce qu'on parlera tout à l'heure de Vima Laponce. Et de cet espace de bandes son pour le théâtre, elle a trouvé l'espace finalement qui était la création idoine pour elle, qui était la musique. Donc ça donne un premier album avec le titre qu'on a entendu, Glow, que je trouve absolument magnifique. Vous aurez des choses beaucoup plus sautillantes comme Sweat Way. Vous la verrez entourée d'une armée de femmes qui ont l'air d'être libérées tout juste de prison. Il y a également un titre qui s'appelle Twin Shadow, qui est une sorte un peu de Black Swan, parce qu'on est sur une personnalité comme ça schizophrénique, pareil encore, entourée de taulières. Là c'est des méchantes du pensionnat hein, qui vont vous planter éventuellement au cutter. Il y a cette férocité, c'est pour ça que ça lui va très bien, Canine, et cette fragilité, c'est ce qu'elle a cherché à porter. Donc pour moi, c'est un disque qui va être énervant dans son côté tout en un, parce que vous allez avoir l'impression d'entendre quelque chose que vous avez toujours entendu, comme ce Woodkid, ces petites mélodies qui vont venir vous chercher en disant « mais je connais, j'ai déjà entendu ». Et en même temps, elle l'emmène ailleurs, et il me semble que c'est une sorte d'album étape de ce qu'on pourrait faire comme ça en création, en électronique au début du 21e pour une jeune femme française.
L'album s'appelle Dune, le projet, on dit comme ça maintenant,
projet.
S'appelle Canine et c'est sorti chez Polydor.
France Culture, la dispute, Arne Laporte.
On termine cette dispute avec un disque de Thiriac Arrivel et Vima Laponce. Si vous avez aimé Grande, formidable spectacle, on ne peut plus multidisciplinaire, vous serez sans doute ravis d'apprendre que le duo d'acrobates, comédiens, musiciens, chanteurs, composé donc de Vima Laponce et Thiriac Arrivel, a décidé de poser sur vinyle les morceaux très entêtants qu'il jouait, ou qu'il joue d'ailleurs, parce que le spectacle continue à tourner, qu'il joue en direct pendant les représentations. C'est comme un avant-goût du printemps, là, avec ce disque qui s'intitule « Victoire chose ». On écoute « Effeuillage ».
Le voile de la mariée.
Play.
Le bouquet. La jupe tailleur. Le boa noir. L'écharpe tricolore de Miss France. Le body à paillettes et à franges. Le corset 18e. L'éventail rose. Le tablier jaune fluo. Les gants latex rose de Messel. La voilette noire. Le déshabillé de soie. La veuve. La veille, le collier à fleurs, la pop-up girl, le chiffon vert de poussière, le petit tablier à carreaux rouges, la mini-jupe zèbre 1970, le bandeau rose sur les seins, le jupon couleur chair, les portes-jartelles 1, 2, le collier en faux diamant, la ceinture de chasteté et ses clés. Le serpent. Le serpent. Le string salopette léopard. Le soutien-gorge couleur chair.
les faux seins en silicone, les biculottes à gaine, la culotte bleue en crochet.
Stop.
Les bagues. La robe, la fraise, la guimpe de la bonne sœur, la corde autour de la taille, la collerette, la burqa, la longue robe noire de religieuse, le tailleur en tweed 1950, les colliers en perles 1, 2, 3, 4, noir, l'écharpe tricolore de Miss France, le body à paillettes et à franges, le corset 18e, l'éventail rose, le tablier jaune fluo.
Ah oui, ça s'arrête comme ça, parce que dans le spectacle aussi, ça s'arrête comme ça. C'était le spectacle, c'est grande, ça continue à tourner. Si vous avez la chance d'être à Sainte-Clotilde, à la Réunion, les 29 et 30 mars, vous pourrez voir, vu ma lapin, c'est Thierry Carivel, interpréter grande. Alors, question aussi, hein, mais donc, ça sera aussi une première question du tour de table. Est-ce que ce disque, on l'écoute différemment selon que l'on ait vu ou pas le spectacle? L'avez-vous vu, Sophie Rosemont, ce spectacle?
Justement, je n'ai pas vu, et je trouve que... Ne l'ayant pas vu, j'avais un peu peur.
Bah oui, forcément.
De pas du tout accrocher, de me sentir vraiment à côté de la plaque. Et en fait, vraiment, je me suis laissée prendre.
Donc ça existe comme disque.
Ça existe vraiment pleinement comme disque. Pour moi, c'est une réussite de ce point de vue-là, sachant qu'en plus la nature sonore du disque en lui-même n'est quand même pas forcément évidente. Une espèce de mélange entre électropop, fanfare encore, fanfare lofi, du spoken word, trompettes et tremblements. C'est une espèce de crowd pop,
des slow,
un peu artisanal et à la fois très très bien façonné par Olivier Desmaux, qu'on connaît pour son rôle, sa présence dans Cheveux et dans Hémat. Et moi, je trouve ça vraiment très 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 réussi. Il y a des certains morceaux qui m'ont touchée. Et donc, j'ai qu'une envie, c'est aller voir le spectacle, très clairement.
On vient de rejouer au 104, là, mince, vous l'avez raté il y a peu de jours près.
Je l'ai loupé vraiment à quelques jours. Et ce qui m'a aussi séduit, et j'imagine que ça prend tout son sens visuellement, c'est la complémentarité vocale, donc de Vima Laponce et de Thiriac Arrivel, qui vraiment se répondent pas seulement par rapport aux paroles ou par rapport au jeu. On voit qu'il y a des jeux que on les imagine derrière le micro faire limite leurs figures, leurs acrobaties et se parler entre deux prises. On sent vraiment cette complicité très forte, cet ancien amour, parce que si j'ai bien compris, il s'agit d'un amour qui n'est plus vraiment et qui reste quand même assez très.
Pas d'information personnelle. C'est que le spectacle parle de la relation de couple, ça c'est sûr.
Qui reste quand même en tout cas très 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 fort, et ça s'entend. Et cette espèce de mix, enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin, j'aime pas trop le terme fusion, c'est un peu comme world music, je suis pas très fan du terme fusion, mais c'est un bel objet, un peu étrange et très accessible à la fois, qui fait rencontrer à la fois le Kusturica, les cabarets un peu musicals et la French Touch. Il y a quelque chose de très, très, très français dans cet album.
D'accord. Pascaline Potvin, premier regard sur cette Victoire Chose, cherchez le titre.
Eh ben moi non plus, je n'ai pas vu le spectacle. Ah. Et moi, à la différence de Sophie, ça m'a complètement laissé complètement resté dehors. Justement, j'ai l'impression que ce spectacle a l'air fabuleux. Je me suis quand même renseignée, je suis allée voir des vidéos et ça a l'air génial. Là, ça m'a vraiment donné très envie de le voir. Mais j'ai l'impression que ça ne sort pas des quatre murs d'une salle de spectacle et ça sort pas non plus beaucoup des quatre murs du studio en fait pour moi. Du coup, comme j'étais un peu perplexe en découvrant ce disque, je me suis renseignée, j'ai lu des interviews. Quelque chose qui m'a intéressée, c'est qu'ils sont notamment inspirés de beaucoup de choses, mais aussi de la musique à programme, qui est de la musique classique en fait, inspirée par un thème ou des images. On va encore parler d'images. Mmh. La musique à programme, donc comme Une nuit sur le Mont-Chauve de Moussorgski ou Ainsi parlait Zarathoustra de Richard Strauss. Et du coup, moi qui vois, comme vous avez compris, beaucoup d'images dans la musique, là, je n'en vois pas. Alors, un petit peu quand même sur le titre qu'on vient d'écouter, Feuillage, que je trouve très bien. Effectivement, je trouve le groove assez réussi et c'est pas du tout un album si DIY que ça parce que il est quand même très bien produit et très bien abouti soniquement, on va dire. J'étais aussi plutôt attrapée par J'ai rien fait, où on entend la voix de Thierry Acarivel, du coup, qui répète comme ça, J'ai rien fait, qui prend un sens différent selon ce que déclame Vima Laponce derrière. J'ai rien fait, l'ambition, la détresse, la culpabilité. Au-delà de ça, moi, je reste quand même sur le côté parce que ça, je trouve que ça tombe beaucoup quand même dans les clichés de l'album expérimental. Ces espèces de phrases énigmatiques répétées avec une voix blanche, ces chansons chantées avec une voix non timbrée. On n'est pas chez Brigitte Fontaine et Areski, quoi. Je trouve qu'on n'atteint pas parce qu'il y a quand même cette influence. Moi, elle est quand même très présente. Je trouve qu'on n'est pas avec moins de poésie, moins d'humour aussi. Je pense que ça vient pas d'eux. Je pense pas qu'il y a de la prétention ou quoi que ce soit. Mais voilà, ça me laisse sur le côté, ça fait pas naître énormément de sensations, ni énormément d'images. Ça frôle le cliché arty de temps en temps. Donc pas une grande victoire et j'en retire pas grand-chose.
Mathilde Serrel.
Alors là, moi je suis dans une position inverse puisque j'ai vu le spectacle. Et donc du coup, j'ai démarré les choses complètement différemment. C'est-à-dire, je me suis dit, ah tiens, en fait, ça peut faire un très bon disque et pas seulement un spectacle. Donc je suis totalement à fleur renversée. Donc je pars avec, au contraire, une sorte de conviction grandissante à l'écoute du disque. Mais je m'étais pas rendu compte en voyant le spectacle à quel point il y avait un vrai travail de la bande son et à quel point il y avait en fait aussi un disque à l'intérieur de ce spectacle. Plus pardon, mais une mention spéciale pour le nom de ce label. Non, mais teenage ménopause. Voilà, bravo. Je trouve ça exceptionnel. Moi, au contraire, j'ai pensé à effectivement des groupes français en ce moment que j'ai défendu ici. On n'a pas toujours été d'accord, mais L'âge de guerre est enterré comme catastrophe qui fait courir le premier degré tout nu dans la rue. Et que vous n'aimez pas, et que moi je défends.
Mais Catastrophe, c'est beaucoup. Et j'aime. C'est beaucoup moins bricolé que Victoire Chose.
Mais je trouve qu'il y a certains titres, moi j'ai pensé à Jacques, à Catastrophe, je trouve qu'ils pourraient tout à fait se retrouver dans cette famille électronique expérimentale française, avec ce mélange de cut-up de texte et de cut-up de son. Et j'étais assez surprise aussi par la voix de Tsika Arivel, qui a vraiment, je trouve, une douceur. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point c'était bien dans ce spectacle. Il faut dire que c'est en effet un spectacle qui a révolutionné le cirque. Grande, c'est un des plus grands spectacles du cirque contemporain. C'est vrai que c'est absolument...
C'est réducteur quand vous dites cirque.
Non mais oui, c'est même pas du cirque. Tout est réinventé.
C'est un spectacle pluridisciplinaire.
Nous remettons en cause tous les termes aujourd'hui.
Non, mais c'est vrai.
Musique, pas de cirque.
Non, c'est pluridisciplinaire. C'est un spectacle qui convoque le théâtre, la musique, l'acrobatie.
Eh bien, le disque,
la danse,
prouve que c'était un...
Le striptease,
les feuillages, prouve que c'était bien un spectacle pluridisciplinaire et pas simplement une réinvention des codes du cirque. Je saute sur la liane
que vous
m'avez tendue.
Sauter. Mais c'est vrai que, alors quand j'ai vu le spectacle, moi je voulais absolument procurer la musique du spectacle parce que je trouvais que les chansons étaient extrêmement entêtantes pendant la représentation. Donc j'avais essayé de soudoyer la production du spectacle pour avoir la bande-son. Il n'en était pas question, ce sont des gens extrêmement intègres. Mais par contre, chaque soir, il y avait une cassette qui était enregistrée du live. Et le premier spectateur qui se précipitait à la sortie de la salle pouvait acheter la dite cassette. Alors, je ne sais pas s'ils continuent à le faire maintenant que le disque existe, mais enfin, ils l'ont fait donc plusieurs dizaines de fois, ça c'est sûr. Je ne sais pas s'ils ont dépassé 100 ou 200 représentations depuis le temps que ce spectacle existe. Mais en tout cas, moi, j'étais très, très surpris aussi parce que au départ, on se dit, voilà, ils vont bricoler, ils ont un peu des synthés, ça va être programmé, ils vont lancer un ordinateur portable qui va faire des boucles. Pas du tout, ça joue, ça chante. Tout ça en venant de sauter d'une poutre de je ne sais pas combien de mètres de haut, ou en effectivement faisant un striptease à l'envers ou à l'endroit, avec une machine à laver sur la tête, hein, parce que c'est quand même ça ce qui se passe parfois dans ce spectacle grande. Mais donc, non, il y avait une vraie musique. C'est vrai que la dimension French Touch, c'est presque l'enfance de la French Touch. Enfin, oui. C'est des sortes de naïveté.
C'est peut-être mathématiques modernes aussi, ou ce genre d'expérience-là, ouais. Triangle, chez Jacquenot. Ouais.
Quelque chose de très, très, très pur et très, très à l'origine, enfin, presque à l'origine de l'électronique. Et moi, j'avais été très sensible à cette musique en live, pendant le spectacle. Et j'ai retrouvé beaucoup d'émotions dans l'album, et y compris des morceaux, le morceau qui s'appelle Si je meurs.
Oui, qui est une vraie chanson.
Il me fait pleurer. Enfin, ce que dégage Vima Lapon, c'est ce que dégage la musique qu'ils ont créée là, avec en plus toujours cette idée de répétition. Il y a souvent comme ça des paroles, vous l'avez noté, qui sont répétées, mais qui, enfin, moi, vraiment, j'ai eu beaucoup d'émotions assez différentes.
Oui, Sophie Rosemont. Et c'est vrai qu'ils chantent très bien tous les deux. Là, vous venez parler de la voix de Vima Lapon, et c'est vrai que ce soit Vima Lapon ou Thiriac, ils chantent vraiment merveilleusement bien. C'est étonnant.
Bon, il faut emmener Patrick pour voir le spectacle avec Sophie.
J'ai très envie de le voir. Mais j'ai très très envie de le voir. Mais c'est vrai que voilà, j'ai envie de le voir notamment pour ce côté pluridisciplinaire, parce que là non plus, je suis pas du tout une cliente de cirque. C'est pas du tout mon truc. Du coup, ça me rend très très curieuse. Si c'est plus que ça.
Ah, c'est beaucoup plus.
Mais autant le spectacle a l'air effectivement riche et pluridisciplinaire, autant moi le disque, je trouve pas très riche.
Si la moitié des spectateurs de leur spectacle achètent le 10, ce sera un des gros cartons. Parce que depuis le temps qu'ils le jouent à guichet fermé.
Et si ça peut aider Teenage Ménopause.
Mais quelles sont les prochaines dates, justement?
Je vous l'ai dit tout à l'heure, 29 et 30 mars à Sainte-Clotilde, à La Réunion.
Sainte-Clotilde. Mais c'est pour ça que je l'ai refoulé, c'est trop loin.
C'est trop loin, mais il y a des gens qui seront très près et qui sont ravis d'être aussi près.
Ils auront bien la chance.
Non, mais on imagine, il n'y a pas de raison que ce spectacle va continuer.
Je fais passer une réclamation, s'il vous plaît, Zimalite. Thiriac, revenez.
Écoutez,
au lieu d'essuyer ses larmes, il essuyait la cuisine.
Oui.
Mais ils viennent quand même de jouer encore 15 jours ou 3 semaines au 104. Hein. C'était la troisième fois. Bon, Victoire Chose de Vima Lapon, c'est Thiriac. J'ai dit Thiriaca depuis des années. Bon, Thiriac Arrivel. Si c'est pas comme ça qu'on le dit, je m'en prendrai à Sophie Rosemont. C'est chez Teenage Menopause Records. Et avant de conclure cette émission, c'est l'heure du jeu de la dispute. Et c'est désormais Joséphine Dumoulin qui nous rappelle d'abord la question de la veille. Et avant de donner sa réponse, forcément, oui Joséphine, c'était quoi hier?
Alors la question était: quel boulevard parisien fut immortalisé par une célèbre photographie de Louis Daguerre? Et la réponse était boulevard du Temple.
Ce soir, nous faisons gagner des invitations, des places de cinéma pour le film « On ment toujours à ceux qu'on aime ». C'est un film de Sandrine Dumas qui sort demain sur les écrans. Quelle est la question, Joséphine?
Dans quel film Marthe Keller interprète-t-elle une star déchue à la beauté légendaire?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales envoyées à auditeurfc@radiofrance.com. Et Mathis Lérel me écrit très très mal, mais je vois que ce sera le sujet de votre billet culturel demain matin.
Oui, demain à quelle heure? À 8h42 exceptionnellement.
42, vous parlez du film Sandrine Dumas.
Exactement, il faut toujours mentir à ceux qu'on aime.
Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter ou podcaster nos émissions. Demain à 19h, une dispute art plastique avec Sarah Hilermeyer, Ingrid Lukegad et Frédéric Bonnet. Nous parlerons de l'exposition sur les fenêtres d'Ellsworth Kelly au Centre Pompidou, Musée Pouchkine, 500 ans de dessins de Metz à la Fondation Custodia. Théo Hernandez, éclater les apparences à la Villa Vassiliev. Il y aura un coup de cœur de Sarah Hilermeyer pour Rosemary Castoro, exposée en ce moment à la galerie Tadeusz Ropak.